Alors, bienvenue donc à l'émission. Normalement, c'était Point de vue de l'Estac, mais cette émission se transforme et devient une émission féministe. Donc là, c'est ma première aujourd'hui et j'ai deux invités, Ouria Melkrelouf et René Clergue de la Marche mondiale des femmes. Alors, pourquoi une émission féministe ? Eh bien, vous savez que le mercredi, j'ai une émission hebdomadaire pour Amnesty International. Donc, je travaille sur les droits humains. Et les droits qui ne sont pas respectés, eh bien, ce sont les droits des femmes. Ce qui me révolte complètement. Et du coup, ma vision du monde a toujours été féministe. Et voilà, donc j'ai pris mon courage à deux mains et aujourd'hui je vais commencer ma première de notre émission féministe avec mes deux invités. Attends, je vais leur relever le micro qui sont juste à côté de moi. On est dans le studio technique, si tout va bien. Oui, voilà. Et voilà. Alors.
Eh ben bonjour Nadia.
bonjour c'était Nadia. Ouria et René. Voilà. Alors, comme introduction, je vais faire une petite introduction avant de les laisser parler. Donc, pour dire, il y a beaucoup de malentendus sur le féminisme. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la définition du féminisme ? Eh bien, c'est simplement la lutte pour l'émancipation des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. La fin des discriminations et des disqualifications des femmes. Donc pour moi, c'est tout simplement une question de justice, de liberté et même aussi de survie, puisque de nombreuses femmes, malheureusement, sont assassinées, comme vous devez le savoir, crimes d'honneur, féminicides en tout genre, ou même elles n'ont pas le droit de naître, voir par exemple un reportage qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps, Un monde sans femmes, où les femmes sont encouragées à avorter lorsque elles sont enceintes des filles. Alors, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, premier article de la Déclaration universelle des droits humains, en 1848. Alors, pourquoi parler plus spécifiquement des droits des femmes ? Eh bien, parce que chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d'humiliations, de privations, de harcèlement, de viols, de violences, de féminicides, de traitements inhumains et dégradants, perpétrés au nom souvent de traditions ou de lois injustes. Donc, les meurtres de femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques et illustrent de la façon la plus criante qui soit la discrimination profondément ancrée et admise dans certaines cultures à l'encontre des femmes et des filles. La plupart du temps, ils sont commis en toute impunité du fait de l'acceptation largement répandue de cette pratique et des statuts juridiques. Autre préoccupation au niveau international, il s'agit par exemple des mariages précoces et forcés qui volent l'enfance à des milliers de filles, qui conduisent à la déscolarisation et à des grossesses non désirées, à des situations de profonde détresse. Ensuite, autre sujet très important, dont on va peut-être parler aussi aujourd'hui, c'est l'interdiction absolue ou l'extrême restriction de l'interruption volontaire de grossesse, qui ôte la possibilité de choisir d'avoir ou non un enfant, qui oblige les femmes à recourir à des avortements illégaux et risqués pour leur vie. Il faut savoir que dans certains pays, suite à une fausse couche, des femmes sont jetées en prison parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir avorté. Autre grande violation et torture par rapport aux femmes, c'est les mutilations génitales. Voilà, donc ce sont tous des sujets que j'aborderai aussi plus profondément dans d'autres émissions. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que on voit bien que si la discrimination et la violence à l'égard des femmes est manifeste dans presque tous les domaines de la vie, c'est dans le domaine de la santé, en matière de sexualité et de procréation, qu'elle atteint les niveaux les plus révoltants. C'est la régulation de la sexualité et de la procréation des femmes qui met le plus clairement en évidence les stéréotypes et préjugés nuisibles fondés sur le sexe. Alors, si vous permettez, René Ouria, je continue juste un petit peu sur l'importance, le lien entre la violence et la culture. Alors, partout dans le monde, les fonctions et rôles sociaux des femmes sont fixés. Chaque culture possède une façon caractéristique de définir les rôles des deux sexes. Les femmes, elles, sont presque toujours cantonnées dans des rôles secondaires par rapport à ceux des hommes. Et souvent, leur rôle est avant tout d'être procréatrice. Et la violence est fréquemment utilisée pour faire respecter ces rôles. Voilà le lien entre la violence qui est utilisée pour que les femmes restent à leur place. Une culture patriarcale largement promue en grande partie par des institutions religieuses, y compris l'Église catholique, les églises évangéliques et toutes les églises. Les institutions sociales et politiques, elles aussi, encouragent parfois la soumission des femmes et les violences dont elles sont victimes. Certaines traditions et pratiques culturelles, particulièrement celles qui sont liées aux notions de pureté et de chasteté, sont parfois invoquées pour expliquer ou excuser le traitement infligé aux femmes. On trouve pratiquement dans toutes les cultures des formes de violence contre les femmes, mais cette violence est difficilement perceptible car elle passe pour normale. C'est un tabou culturel, une femme doit se taire et rester à sa place. Le comportement d'une femme est souvent considéré comme reflétant les qualités de sa famille ou de son milieu social. Si une femme semble outrepasser le rôle culturel qu'on lui a attribué, elle peut être accusée d'avoir jeté la honte et le déshonneur sur sa famille et sur son milieu. La violence et les menaces constituent alors une méthode de sanction et de contrôle. Donc, dans les cas les plus extrêmes, la femme peut être défigurée ou même tuée. Ces prétendus crimes d'honneur sont traités avec une certaine indulgence dans le code pénal de nombreux pays. Alors, même dans les pays dont la législation criminalise la violence contre les femmes, on constate que cette dernière est parfois tolérée à tous les niveaux de la société. La violence contre les femmes se poursuivra tant qu'elle restera cachée, jugée avec indulgence ou passée sous silence par la société et les autorités, et tant que les auteurs de ces violences ne seront pas soumis à des sanctions. La violence contre les femmes n'est ni naturelle ni inévitable. Elle persiste car la société, les cultures, les religions, les églises, tout ce que j'ai dit avant, le permettent. Quasiment chaque culture comprend une forme de violence à l'égard des femmes qui passe pratiquement inaperçue car elle semble normale ou acceptable. Voilà, donc ce que je voulais dire un peu comme introduction. Peut-être un peu lourde, mais bon, pour...
Non, mais en tout cas, merci de nous inviter à ta première émission féministe. Voilà, donc on se sent... Merci, voilà.
Ben, merci à vous.
Et bon, c'est vrai que René et moi, j'allais dire, on ne nous présente plus. Ça fait longtemps qu'on est des militantes, mais véritablement militantes féministe et antiraciste aussi, puisqu'on fait aussi partie de ces militantes qui sont sur des fronts divers, mais tout simplement parce que quand on est féministe, on est antiraciste, autrement on n'est pas féministe. Voilà, ça c'est vraiment une réflexion qui est importante. Voilà. Comment on peut commencer? Alors, antiraciste avec le MRAP, donc de Marseille, où on est avec René et d'autres, donc un petit noyau, parce que c'est vrai que les militantes et les militants ne se renouvellent pas énormément, il n'y en a pas énormément. Mais bon, on tient, puisqu'on a des valeurs et on continue à les faire entendre, tout simplement. Et aussi donc à la Marche mondiale des femmes, puisqu'on a fait partie des premières, des pionnières hein, finalement, qui ont voilà. Et le départ de la Marche mondiale des femmes, c'est du pain et des roses, voilà. Donc c'était
du pain et des roses.
Alors on va dire pourquoi. Ouais. Alors René.
Bien, du pain, ça se comprend. C'est contre la précarité des femmes et en général, les femmes sont des fois dans des situations de grande misère. Et des roses, ce qui est le contraire. Offrir des roses, c'est le contraire de frapper une femme. Hein, voilà, donc contre les violences faites aux femmes. Mmh. Voilà. C'était contre la précarité.
Attends, par contre, excuse-moi René, je vais te dire si tu peux bien.
Contre
être
la
près
précarité
du micro, voilà.
Et contre les violences faites aux femmes. Mmh. Ça a été le premier slogan de la Marche mondiale des femmes. Et c'est un slogan qui est toujours valable, hein, de toute façon. Les choses, disons, s'affinent depuis des années que la Marche mondiale existe. On a creusé ce qui pourrait s'améliorer. On a creusé contre les violences. On a essayé de comprendre pourquoi ces violences, pourquoi toujours sur les femmes, on s'acharne de ces façons-là.
Bah oui, c'est pour ça que justement je voulais parler de la culture, de l'impunité, de l'idéologie.
On a interpellé les gouvernements, on a interpellé les politiques, on a interpellé toutes les personnalités qu'on peut interpeller. Et alors évidemment, on souhaiterait toujours que ça aille plus vite, que des améliorations se voient de façon plus importante, mais il ne faudrait pas être pessimiste parce que quand même on a gagné du terrain. Aujourd'hui, on peut parler des violences subies par les femmes, on nous laisse en parler, et quand même beaucoup de gens maintenant comprennent de quoi on parle quand on dit cela. Il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées dans notre société. Il y a eu les violences des attentats. Il y a eu donc une prise de conscience de la dangerosité de certaines théories, de certaines idéologies. Et toutes ces choses ont permis quand même d'avancer sur le traitement des violences. C'est loin d'être parfait. Mais il y a des choses qui avancent. Et aujourd'hui, par exemple, on pourrait se réjouir, bien qu'on préférerait que ça n'existe pas, mais il y a quand même deux prix Nobel.
Ah oui.
Un pour le docteur Mukwege.
Oui.
Hein, Mukwege, qui est ce médecin qui répare les femmes, hein, puisque c'est le titre d'un film qui a été fait sur lui, mais c'est bien son rôle. Il répare les femmes qui ont été victimes de mutilations excessives dans les conflits. Et puis, de cette jeune femme yazidi, Nadia Murad, hein, ancienne esclave sexuelle du groupe État islamique, devenue porte-parole des yazidis. Et ce sont deux personnes d'un courage exemplaire. Et on est heureuse aujourd'hui quand même que leur courage soit reconnu. Et reconnu par un prix Nobel, c'est quand même pas n'importe quoi.
Alors, comment on peut... Bon, tu as, Nadia, tu as dit beaucoup de choses déjà sur les violences faites aux femmes. Et d'un point de vue international, ça veut dire qu'effectivement,
j'ai envie d'avoir une vision internationale pour cette émission. C'est pour ça que j'étais intéressée par le mouvement Marche mondiale des femmes. En fait.
C'est très important. Et en même temps, alors, pourquoi dans la Marche mondiale, c'était contre les violences et contre la pauvreté ? Parce que contre les violences faites aux femmes, c'est partout dans le monde entier que les femmes subissent la même chose, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toute l'humanité. C'est quelque chose quand on rencontre des femmes de l'autre côté de la Terre, elles vivent la même chose que nous ici en France.
À divers degrés, mais effectivement, on peut tout à fait comprendre ce que vivent les femmes du monde entier.
Et contre la pauvreté, bien, c'est terrible à dire, mais les femmes ne sont propriétaires de rien on voit. Alors, je sais qu'il y a un chiffre terrible.
Oui, il y a beaucoup de chiffres que j'avais aussi notés.
Et
notamment
en
Afrique, effectivement.
C'est les femmes les plus pauvres.
Oui. Voilà, je crois que sur 10 pauvres, ce sont 7 femmes qui sont pauvres.
7 femmes, peut-être plus.
Oui.
Voilà. Et donc, elles sont 0,5 à être propriétaires de quelque chose ou des moyens de production ou de la terre, etc. Ouais.
Donc elles travaillent énormément sans en tirer profit, en fait.
Et c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les femmes. Et en France, bon, on rappelle toujours ce chiffre, il y a quand même tous les 2 jours et demi, donc une femme qui meurt sous les coups d'un homme, que ce soit son compagnon, son mari, son ex-compagnon, ou même au sein de la famille, ça peut être son fils. Hein, on oublie ça, mais ça peut être, ça peut être son fils aussi qui tue la mère. Mmh. Et effectivement, on a beaucoup parlé de ça, mais ce qu'on comprend toujours pas, c'est on a les chiffres, on sait ce qui se passe concernant les violences, et malgré tout, ce chiffre depuis de nombreuses années ne diminue pas. Alors, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé dernièrement avec tout ce qui s'est médiatisé dans les réseaux sociaux, la dénonciation avec Balance ton porc et MeToo. Donc, il y a énormément. Bon, la parole s'est libérée, mais en fait, la parole s'est toujours libérée. Le problème, c'est que à aucun moment on a pris en compte ce que disaient les femmes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont audibles. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? On ne sait toujours pas. Hein. C'est vrai qu'il y a des mouvements comme ça. Bon, c'était hier ou avant-hier. Donc, Muriel Robin a fait un appel. Puisque je ne sais pas si vous avez vu le film.
Oui,
donc,
oui.
Et elle a fait un appel pour sauver celles qui sont encore vivantes. Donc, effectivement, elle a raison. Elle a raison. L'histoire de Jacqueline Sauvage et ce qui s'est passé, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que dans cette société, on va changer de paradigme ? De quelle façon comment on va y arriver ? Et ça, les féministes, c'est très ancré dans notre tête. Comment on va réussir à faire en sorte que les violences diminuent, etc. Donc ça, c'est quelque chose...
Oui, parce qu'au niveau de la justice, on dénonce toutes ces violences, mais je vois que la protection des femmes et des enfants ne suit pas, quoi. Il y a plein de choses qui sont choquantes au niveau de la justice. Ouais. Même le fait que, Jacqueline Sauvage, on lui avait donné 10 ans de prison. Moi, je ne savais pas. C'est en voyant le film, je ne m'en rappelais pas. Et ça m'a énormément choquée, en fait. Et qu'on revienne encore sur ça, le fait que... Enfin, moi, j'en reviens pas qu'après tout ce qu'elle ait subi, toutes les horreurs qu'elle ait subies, une violence permanente pendant des années, ses filles ont été violées, elle avait été condamnée à 10 ans de prison parce qu'elle a tiré sur son mari dans le dos. On a encore entendu l'avocat général, je ne sais pas qui disait que c'était pas un bon exemple, etc. Bon, moi j'en reviens pas. Je veux dire, je pense que les lois ne prennent pas en compte le traumatisme et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai relevé aussi un article qui parle de ça, de Muriel Salmona, qui est une psychiatre spécialisée par rapport aux violences faites aux femmes et aux traumatismes et tout ça, qui a écrit pour expliquer que que c'est hallucinant de pas comprendre qu'une femme soit complètement souvent c'est la femme quand elle est violentée elle doit se justifier, elle est soupçonnée, on dit mais comment ça se fait que tu restais avec lui, pourquoi t'es pas partie, etc. Et cette psychiatre, elle explique que en fait il y a un processus psychologique de traumatisme qui fait que la femme violentée est dans l'incapacité de réagir parce que il y a un processus de disconnexion de son cerveau, il y a une mémoire traumatique, il y a un état qui fait que la victime est anesthésiée et elle n'arrive plus à prendre la mesure de ce qu'elle subit. Enfin, elle explique tout ça très bien et je pense que les juges ne sont pas assez formés à cela. Enfin, visiblement, la justice est très en retard, quoi. On dénonce, mais ce qui me choque, si tu veux, c'est ça, c'est le fait que les victimes ne sont pas protégées, quoi.
Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau quand même, c'est que la parole se libère. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on parlait des violences faites aux femmes, il y avait une espèce de chape de plomb. C'était presque malsain de parler de ça. Le doute s'installait tout de suite. On allait trouver des bonnes occasions. Oh, c'est pas la peine d'en faire tout ce que vous en faites. C'était très difficile de pouvoir parler des violences faites aux femmes ou aux enfants. Aujourd'hui, brutalement, la pédophilie, sort aussi. Mmh. Hein? Bon. Mmh. Et les églises sont bien obligées. Je dis les églises parce qu'il n'y a pas que l'église catholique, il y en a d'autres certainement qui font exactement les mêmes choses. Et on ne le disait pas. Et pourtant, ça se savait déjà. Ça se savait déjà. Mais ça reste, c'était la loi du silence, c'était l'omerta. On ne disait rien. Voilà, il ne fallait pas qu'on sache. Mmh. Et lorsqu'une femme se plaignait de violence, immédiatement, il y avait quelqu'un, y compris les femmes. Mmh. Y compris les femmes, pour dire oui, mais peut-être aussi qu'elle l'a bien cherché.
Oui, mais encore maintenant, tu vois, encore voyez, aujourd'hui.
Parce
moi,
que dans
trouve,
la voilà. tête des femmes, elles avaient un rôle à jouer, et de ce rôle, elles n'avaient pas à en sortir. Mmh. Une femme libre, c'était choquant. Mmh. Seulement, ces femmes qui n'arrivaient, qui avaient du mal à avancer, ce sont des femmes qui n'avaient eu aucune libération de leur esprit, aucune formation. Mmh. On leur a jamais permis d'aller plus loin possible dans des études et d'apprendre à nuancer sa pensée, comprendre, à
c'est
mettre en rapport les choses.
Voilà, ouais, ben ça me fait rebondir sur un autre sujet
Mais l'éducation.
Voilà, oui.
L'éducation des filles est très importante.
Oui.
Et que des jeunes puissent parler de leurs frustrations, de leurs difficultés, ça aussi c'est important.
Ouais.
Donc c'est un problème de libération de la parole d'abord qu'il faut établir, mais véritablement, et de conscience aussi.
Ouais.
Une femme n'est pas là pour recevoir des coups. Mmh. Elle est là pour s'instruire, elle est là pour apprendre, elle est là pour travailler, elle est là pour... Mais comme les hommes,
Ouais, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a... Je ne sais pas là si vous voulez que j'en parle aujourd'hui dans cette émission-là, enfin, parce que j'ai préparé plein de sujets possibles, mais je pense qu'on n'est pas assez éduqués, au féminisme, à qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que c'est que la lutte des femmes, l'histoire, pour comprendre justement, il y a beaucoup de confusion sur ça et tout ça, donc effectivement déjà, pour qu'une femme se rende compte de ce qu'on vit,
que c'est un être humain, comme les autres.
Des droits qu'on a, de la valeur qu'on a, du statut qu'on a, enfin voilà, moi j'en ai conscience au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de femmes opprimées qui ne savent pas quoi, je veux dire, qui savent pas ou
elles
ou
prennent des coups et elles disent oh oui mais
bon,
bah, c'est normal
faire,
voilà. C'est normal
voilà, voilà.
C'est un peu ce qui s'est dit dans le film quand on lui demande pourquoi elle n'a pas porté plainte avant, etc. Mm-hmm. Pourquoi elle ne se plaignait pas dès les premières agressions de son mari. Mm-hmm. Elle disait, mais j'ai toujours vu ma mère se faire frapper par mon père. Je trouvais que c'était la relation normale des hommes avec les femmes.
Mm-hmm.
Donc, il y a ça aussi.
Ouais.
Et je voulais revenir un peu sur la justice. Mais que dit la loi, en fait, sur cette affaire-là? Tout simplement, elle s'en est tenue au fait qu'on ne fait pas justice soi-même. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. En fait, elle était en légitime défense, c'est évident.
Mais ils l'ont pas reconnu. Voilà. Je crois qu'ils veulent revenir sur la définition de la légitime défense.
Voilà, ça ne pouvait pas dans ces cas-là être parce qu'il faut pas tout. Il faut réfléchir, je veux dire, à la façon dont on juge les choses et aussi à la façon de dire que. Ben, finalement, on ne peut pas tuer les gens comme ça aussi. Voilà.
Ben, bien sûr,
on est d'accord.
Bon, c'est évident, mais elle ne pouvait pas le tuer alors qu'il était en train de lui taper dessus comme il faisait tous les jours.
Elle
là, tu peux pas forcément
non, parce
réagir.
Elle a dit à un moment donné, je l'ai tué parce que là, je savais que ça allait être fini pour moi et mes enfants.
Voilà.
Ça veut dire qu'il était dans dans un tel engrenage de violence, de folie, de violence brute qu'il avait décidé de tuer tout le monde. Enfin, voilà. Donc c'est vrai.
Donc si elle le tuait pas, c'est sûr qu'il tuait toute sa famille. Voilà.
C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà.
Et donc il y a tellement de femmes qui sont tuées justement tous les trois jours là.
Pour une fois, il y en a 6 à 10 ans de prison.
Voilà.
Donc,
c'est ça qui m'a énormément choquée quoi. Et tu vois, par exemple, bon, je veux dire, cet article-là de Muriel Salmona, je voulais juste citer juste un truc qu'elle a écrit, là, cette psychiatre-là, à propos de Jacqueline Sauvage. Ouais. Et elle a écrit « Une culture qui culpabilise les victimes. Penser cela, c'est adhérer à une culture du déni de la violence particulièrement injuste qui culpabilise les victimes. C'est faire l'impasse sur la réalité de l'enfer que ces femmes vivent. » Sur la gravité des menaces qui pèsent sur elles. sur les nombreuses stratégies des conjoints violents qui organisent leur emprise et leur impunité, et sur les troubles psychotraumatiques induits par les violences qui mettent les victimes hors d'état de réagir et les piègent durablement. La violence est un formidable outil de soumission qui annihile les capacités de défense des victimes.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Ensuite, elle dit, au lieu de se demander comment un homme s'autorise à être si violent et arrive à transformer l'espace conjugal et familial en une zone de non-droit et de terreur pendant tant d'années, c'est à la victime qu'on demande presque toujours des comptes. Elle est sommée d'expliquer pourquoi elle n'a pas réagi, pourquoi elle est restée si longtemps avec un conjoint qui la battait, la violait et maltraitait également les enfants, pourquoi elle n'a rien dit ni porté plainte. On lui demande de s'expliquer sur les phénomènes d'emprise qu'elle subit, alors que c'est elle qui aurait besoin d'être informée sur les mécanismes qui en sont à l'origine pour qu'elle puisse les comprendre et y échapper. Voilà. Et donc, elle poursuit l'article en disant qu'en fait, une personne qui vit ça n'est pas protégée du tout par la société en aucune façon, quoi. Et qu'elle n'a pas forcément les moyens, effectivement, de réagir. Et en plus, effectivement, on le voit que, de toute façon, quand elle réagit, qu'est-ce qui se passe souvent, en plus, elle le sait elle-même que ça sera beaucoup d'ennuis pour elle. Et on risque même quelquefois de lui prendre ses enfants parce qu'on va dire qu'elle est trop fragile, etc. Donc je veux dire, c'est une situation très très compliquée, voilà, sur ça. Voilà. Peut-être qu'on fait une petite pause musicale comme ça. Alors, je vais vous faire une petite pause musicale. Voilà. Qui va nous permettre de reprendre un peu notre souffle. Auria et René de la Marche mondiale des femmes.
On va dire un peu ce que c'est finalement
la marche mondiale.
On fait un peu la présentation de la marche mondiale. Quoi.
Ouais.
Donc c'est une histoire qui date depuis. En fait, c'est un mouvement mondial en fait d'action féministe qui s'est tout simplement constitué à une conférence de l'ONU à Pékin. C'était en 95 sur les droits des femmes. Et il y a eu donc aussi au Québec en 98, donc il y a 95 c'était Pékin, puis après 98, les féministes qui étaient à Québec ont décidé de faire la première marche contre la pauvreté. Donc évidemment, il y avait une majorité de femmes qui étaient présentes. Et elles ont ressenti le besoin de vraiment se regrouper, de créer un mouvement qui serait propre aux femmes, de la base, c'est-à-dire que c'est pas des officiels des États ou des officiels de l'ONU, etc., qui ont décidé de faire en sorte que ce mouvement existe. Et elles se sont donné l'idée, l'objectif, que le 8 mars 2000, donc 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, eh bien, il y aurait une première marche mondiale des femmes qui mobiliserait des milliers de femmes à travers le monde. C'était un pari, et ce pari a été remporté, puisque cette marche s'est terminée. Donc, il y avait des milliers de femmes à travers le monde qui sont venues. Et cette marche s'est terminée à New York avec plusieurs milliers de pétitions, donc, qui avaient été signées par les femmes du monde entier et qui ont été déposées à l'ONU le 17 octobre 2000. Donc, c'était alors le 17 octobre, c'est la journée internationale de la misère. Hein. Ça, c'est les journées internationales qui existent. Et ensuite, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été interpellés par toutes les femmes du monde entier. Et enfin, ensuite, donc, c'était lancé. Et elles se sont dit, bon, là, on est le 17 octobre 2000. Eh bien, tous les 5 ans, on va marcher. Et la deuxième marche mondiale des femmes, elle a été organisée donc par les femmes du monde entier en 2005, et elle s'est terminée au Burkina Faso. Donc ensuite, je sais qu'à Marseille, les 28 et 29 mai, on a accueilli l'étape européenne de la marche mondiale, et il y avait des milliers de participantes qui venaient du monde entier, de toute la France. Eh bien, pas un seul... il y a juste la Marseillaise qui a fait un article. Il n'y a pas eu un seul écho de médias nationaux, même pas la Provence, même pas les radios, personne n'a dit, et alors que Marseille était, comment dirais-je, envahie de 6 000, 7 000, 10 000 femmes étaient dans la rue le 28 et le 29 mai à Marseille. C'est 2005.
Okay.
C'est quelque chose qui a été... Bon, souvent, quand on fait des choses comme ça, effectivement, on n'est absolument pas relayé ni par la presse, ni par aucune presse, ni écrite, en dehors de la Marseillaise, voilà. Donc
justement,
là, on est en
2000... Quand vous aurez les prochaines actions, voilà.
Alors,
je les
2005,
annoncerai à l'avance.
2010... Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a eu la création de la charte en 2004... Donc, on a la Charte mondiale des femmes pour l'humanité, où il y a 5 valeurs essentielles qui sont défendues. Donc, l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. Voilà. Donc, ça, c'est les valeurs, les 5 valeurs essentielles qui sont défendues par toutes les femmes qui rentrent, qui sont dans la Charte et qui rentrent dans la Marche mondiale des femmes. Et donc, on a défini plusieurs champs d'action. Alors, évidemment, la question des violences, on en a parlé. Donc, violences envers les femmes, y compris les mutilations génitales. Il y a autonomie économique des femmes. Que les femmes soient autonomes financièrement, c'est quelque chose qui doit encore se gagner. C'est pas gagné, même sous nos contrées. Mm-hmm. La paix et la démilitarisation. La paix, bon, évidemment... On sait très bien que en état de guerre, quand on est en guerre, c'est les femmes qui
sont les premières victimes.
Les premières victimes, on a tous.
Oui, voilà, comme on vient de parler de Denis Mukwege,
voilà.
Le viol utilisé comme arme de guerre.
Exactement.
Voilà,
elles sont butins de guerre également, et c'est une façon d'humilier l'ennemi. Vraiment, c'est
vraiment
quelque chose
atroce
que nous dénonçons fortement.
Il a réparé des générations, pas seulement la femme et la fille et la grand-mère. Enfin, c'est tellement ça a duré ce conflit avec ces viols.
Donc, et évidemment, les biens communs et services publics. Alors, c'est vrai que notre charte, elle est anticapitaliste. Alors, pourquoi elle est anticapitaliste ? Eh bien, parce qu'on considère que le capitalisme utilise justement la domination des plus nantis, mais également des hommes sur les femmes, des richesses, des riches sur les pauvres, etc. Et qu'en réalité, en utilisant entre guillemets cet état de nature, je vais vous donner un exemple, et elle permet de gagner des sous sur le dos des femmes. Juste un exemple. dans notre société, par exemple, très souvent, ce sont les femmes qui, bon, à 80% des femmes s'occupent de la famille, c'est-à-dire les tâches ménagères, etc., l'éducation des enfants, et, voilà. C'est pas quelque chose qui a encore beaucoup changé, mais c'est elles aussi qui s'occupent des personnes âgées. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de service public des personnes âgées qui pourraient soulager les femmes pour s'occuper de leurs aînés. Si vous vous rendez compte, dans cette société, ça veut dire que ce sont les femmes qui s'occupent. Souvent, c'est elles qui arrêtent de travailler et qui prennent les congés d'éducation, parentale,
oui,
d'éducation.
Beaucoup, c'est les femmes qui ont beaucoup plus d'emplois partiels.
Exactement. Voilà. Elles sont beaucoup à un temps partiel, etc. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de structure voilà, publique qui puisse soulager les femmes.
Oui, parce que c'est un phénomène, voilà,
c'est
dans la culture, comme je disais avant.
Le capitalisme s'arrange de ça. Voilà. Il est très content.
Que c'est le rôle,
naturel, entre guillemets,
de servir.
Alors que l'éducation,
père, fils,
elle doit être à égalité.
Fille,
s'occuper de ses parents âgés, ça doit être à égalité. Mm-hmm. En fait, ce sont souvent et toujours les femmes qui se retrouvent dans la société à faire ce qu'on appelle du nursing, ou à faire pour les personnes âgées, pour les enfants, etc. Donc, le capitalisme utilise ça. Il l'utilise aussi parce qu'il paye moins les femmes dans les industries,
etc. Il y a toujours des inégalités salariales.
Donc, ils font énormément d'argent.
Ça, beaucoup de gens y croient pas trop. Beaucoup de femmes disent, mais non, ici, on gagne pareil.
Non, en France, pas du tout. Pas du tout. Ça n'est pas le cas. Et c'est encore quelque chose qu'il faut... il faut encore batailler pour pouvoir éliminer ces inégalités. Alors, donc on était là. Donc, autonomie économique des femmes, donc c'était extrêmement important.
Fondamental.
Et donc, bien commun et services publics. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, pour les services publics, que ce sont les femmes qui étaient les premières usagères du service public. Parce que c'est elles qui sont les plus pauvres, donc celles qui sont demandeuses le plus de services publics, que ce soit les transports, que ce soit évidemment tout ce qui est la maladie, etc., pour les enfants. Je veux dire, c'est pour ça que les services publics, c'est quelque chose qui est quelque chose d'égalitaire, qui permet aux femmes d'avoir le même traitement que les hommes. Enfin, ça permet l'égalité. Et quand on fait la case du service public, eh bien, on se retrouve avec des femmes qui sont de plus en plus pauvres et qui sont de plus en plus dépendantes financièrement et économiquement des hommes de leur famille, ou du père ou du mari, etc.
Alors qu'elles ont en fait un double
alors
emploi,
exactement,
elles travaillent.
Voilà, donc c'est vraiment on est vraiment donc anticapitaliste et altermondialiste, hein. On pense qu'une autre façon de vivre est possible. De toute façon, on est aussi on est abolitionniste concernant la prostitution, voilà. Donc on pense que
donc ça, c'est un autre sujet,
voilà.
J'aimerais bien traiter peut-être
la prostitution,
avec des associations spécialisées.
C'est pas le plus vieux métier du monde, c'est pas un métier, c'est un esclavage. Mm-hmm. Voilà, c'est ce que nous considérons, c'est ce qu'on pense, voilà. Mm-hmm. Et le libre choix de sa sexualité, donc on supporte pas la lesbophobie, l'homophobie, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut dire aussi.
En ce qui concerne la prostitution, on est surtout contre la traite des femmes. Parce que c'est une exploitation absolument terrible, qui passe par la violence, qui passe par le meurtre, qui passe par la drogue, qui passe par beaucoup de choses. C'est surtout cette prostitution-là, la traite des femmes, comme il y a la traite des enfants,
mais
et comme il y a la traite
de la prostitution, parce que ceux qui disent il y en a qui font par plaisir, c'est complètement absurde, quoi. Une femme, on choisit pas métier à l'université, je vais faire prostituer, quoi. Donc si c'était comme ça, on dirait aux garçons, beau métier, quoi. Et aucun père a envie de ça pour sa fille. Donc
Le dis parce que très souvent on nous oppose que, après tout, c'est un métier comme les autres.
Non.
Quand il s'agit de traite, qu'on prend les gens, qu'on les exploite comme des esclaves, on n'est pas dans le choix d'un métier.
Même certaines femmes qui pourraient dire je l'ai choisi, quand tu creuses, tu vois que c'est pas le cas. Je veux dire, tu peux choisir d'avoir envie de faire l'amour avec plein de gens, mais pas de faire ça pour gagner ta vie. Si tu veux gagner ta vie comme ça, c'est quand même un gros problème, quoi. Je veux dire, justement, l'histoire de la pauvreté, tout ça, c'est lié, quoi. Je veux dire, si les femmes n'étaient pas étaient égales économiquement, il y aurait pas ce choix qui n'en est pas un.
Et 2015, nous étions en Afrique. Il y a eu deux années. 2010 et 2015, c'était solidarité avec les femmes d'Afrique. 2010, c'était au Congo, au Nord Kivu, là où il y a la guerre, où il y a énormément de... Là où il y avait le... Juste, ben c'est là où il y a le docteur Denis Mukwege, voilà, l'homme qui répare les femmes. Et 2020... Alors, on a une réunion fin octobre à Bilbao avec toutes les femmes du monde entier pour savoir ce que nous allons organiser pour 2020, c'est-à-dire dans 2 ans. Mmh. Voilà, la prochaine marche se passera dans 2 ans. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des dates fortes, et d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui va arriver bientôt. Donc, par exemple, on se mobilise le 6 février, qui est la journée internationale contre les mutilations génitales. Ensuite, le 8 mars, évidemment, tous les 8 mars, alors surtout ici à Marseille, on fait en sorte que ce soit un 8 mars unitaire. C'est la journée internationale du droit des femmes. Donc, à Marseille, on aime quand on est dans la rue, en règle générale, on prend la rue. Le 24 avril, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'effondrement de l'usine de textile au Bangladesh, donc Rana Plaza, qui a tué plus d'un millier de femmes, hein, de personnes, dont une majorité des femmes. Et en fait, chaque fois le 24 avril, on témoigne de notre solidarité avec les femmes du monde entier, en tout cas celles qui travaillent dans les usines textiles de Bangladesh. Vous pouvez imaginer qu'elles travaillent pour toutes les entreprises textiles et tous les magasins que nous connaissons qui sont en Europe. Hein, voilà. Ensuite, le 17 octobre, donc c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, il y a un rassemblement là, hein, qui va se faire le 24 novembre. On avait dit le 25. Mais là, elles avaient décidé de le faire le 24.
Oui. C'est voilà. Nous toutes, c'est ça.
C'est nous toutes. C'est organisé. Ah, voilà, donc c'est organisé. Donc, et nous toutes, c'est
un collectif, c'est ça.
Le collectif de toutes les associations féministes. Uh-huh. Bon, c'est parti de Paris, mais bon, évidemment qu'on va faire.
Contre les violences.
Voilà, c'est la journée internationale contre les violences à l'égard des femmes. Voilà, donc c'était des dates que je voulais qu'on rappelle. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose, Nadia?
Je vais faire une petite pause musicale et puis on poursuivra. Oui, René.
Oui, juste quelque chose et après on
Parmi les violences, il y en a une que l'on essayait de prendre en compte, mais pour laquelle ça nous était difficile parce que il fallait qu'on rencontre des femmes concernées par ce problème-là, et ce sont les mutilations sexuelles. Donc c'est en 2005 que nous avons rencontré, la marche mondiale a rencontré Naki Sissavané, ouais. De Côte d'Ivoire, ivoirienne, et qui luttait déjà contre l'excision. Cette excision, là aussi, c'est pareil. Beaucoup diront, mais c'est religieux, mais c'est... Et on va lui donner un sens qui la rende acceptable. Hein, ou une origine qui est acceptable. En réalité, non. C'est une tradition des plus archaïques. Et comme toutes les traditions, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a vraiment de carrément mauvaises. Et il faut les extraire.
Ouais, je rebondis sur ça. Mais les personnes qui justifient ça, en fait, ils remettent en cause l'universalisme des droits humains. Et moi, je suis pas du tout dans ça. Moi, je voilà, les droits humains, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de justification culturelle à un acte de torture, parce qu'il faut dire ce qui est. Et il n'y a aucune façon de justifier. Voilà.
Et le travail que Naki a fait dans la région est énorme, puisqu'elle a informé. J'ai eu la chance d'y participer avec elle, de l'accompagner. J'ai appris beaucoup de choses, parce que je ne savais pas grand-chose là-dessus, pour ne pas dire rien. Et elle a fait un travail remarquable sur toute la région PACA, où elle a porter l'information dans tous les centres de santé, les écoles d'infirmières, les écoles de sages-femmes, les hôpitaux, etc., etc., etc. Hein? Mm-hmm. Ce fut un travail énorme qui a été fait. Voilà. Mm-hmm. Mais là, il faudra un jour l'inviter pour parler de tout ce sujet qui mérite vraiment une émission à lui tout seul.
Oui, tout à fait. Ok. Alors, donc vous êtes d'accord pour une petite pause musicale ?
Oui.
Ok. Alors, on reprend donc notre émission féministe. Alors j'aurais voulu juste, peut-être là j'aurais pas le temps parce qu'il faut qu'on passe l'antenne bientôt à 7h, donc il reste que quelques minutes, mais au fur et à mesure des émissions, j'aurais bien aimé parler des grandes féministes dans l'histoire en fait, et voilà, donc mais là bon je crois que j'ai pas vraiment le temps d'en parler, et donc je le ferai une autre fois. Sinon je sais pas si vous aviez des actualités, des choses qui vous ont interpellé dans les actualités.
Pensez à Simone Veil, qui on peut quand même avoir parmi toutes les femmes qui ont aidé,
qui ont
les femmes qui ont marqué les femmes et le droit des femmes, le travail remarquable fait par Simone Veil pour l'autorisation de l'avortement. Elle l'a fait avec une... Il a fallu qu'elle ait un courage énorme pour affronter les horreurs qu'elle a pu entendre tout au long des discussions à, au niveau de l'État, quoi. Hein, voilà.
Oui.
Et vraiment, le travail qu'elle a fait, les femmes lui doivent beaucoup.
C'est vrai.
Voilà.
Mm-hmm. Alors, concernant l'IVG, parce que là, je voudrais quand même... je ne sais pas si vous avez entendu l'archevêque de Paris qui s'oppose fermement à la proposition de supprimer la clause de conscience des médecins.
Oui.
Donc, concernant l'IVG. Et en fait, il a dit... alors, c'est l'archevêque de Paris. Donc, il dit... il a jugé terrible la proposition de loi déposée par des sénateurs socialistes pour supprimer la clause de conscience pour les médecins refusant de pratiquer l'IVG. Et il a dit, c'est terrible, cela signifie qu'on entre dans une forme de dictature qui dit, vous n'avez pas le droit de penser, votre conscience doit être éteinte. Alors franchement, c'est
absurde.
C'est pire que ça. Là, c'est pire qu'un pas en arrière, c'est désolant d'entendre ça en 2018.
C'est pour ça que il faut vraiment être très très vigilant. Puisqu'il y a une espèce de lobbying en ce moment même au Parlement, des religieux contre
l'avortement. Par exemple, certaines religions qui refusent la transfusion sanguine, alors les médecins devraient avoir un droit de retrait. Si c'est un enfant dont les parents ne veulent pas qu'on lui fasse et le laisser mourir. Ce sont des choses qu'on ne peut pas admettre.
Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et même sur ce droit IVG, c'est vraiment quelque chose...
Il est tout à fait remis en cause, même en Europe, il y a plein de pays où il est tellement, tellement restreint. Donc, l'Irlande, la Pologne, c'est vraiment... Il faut risquer de mourir soi-même pour se faire avorter.
En Irlande,
ils ont abrogé. Il y a des restrictions énormes.
Mais c'est juste...
Encore aujourd'hui, même s'ils ont, ils ont amélioré le truc.
Et donc pour moi ça c'est une façon de mesurer les choses. L'IVG, si vraiment dans un pays il y a des difficultés pour les femmes,
mais c'est le cas
de faire les IVG, alors ça veut dire qu'on n'est pas dans une société qui est égalitaire, qui est émancipée et une société juste. Voilà.
Ouais. Ok, eh bien voilà, on va rendre l'antenne. Je vous remercie beaucoup.